Bonjour, nous nous retrouvons sur Radio B, les bonnes ondes, pour une nouvelle chronique du passé. Bonjour Gilliane.
Bonjour à tous nos auditeurs, en direct ou en podcast. Bonjour Martine. Nous sommes dans un lieu que l'on fréquente en novembre, dans un cimetière, et plus précisément, celui de Bourg-en-Bresse.
En effet, nous sommes dans la partie la plus ancienne, à un carrefour que l'on pourrait appeler celui des bienfaiteurs de la ville, ceux qui ont légué leur fortune. À côté de nous, il y a la stèle de Joseph-Marie Caria, qui a permis la création de l'institution Caria, devenue le lycée Caria, qui, après son transfert, est devenu le collège Amiot, et aujourd'hui le carré Amiot. En face de nous, à droite, la stèle Guichard, qui a œuvré pour les pauvres, et à gauche, la stèle d'Élie Hébrard, le célèbre médecin.
Bien, nous allons évoquer sa vie et ses études. Nous nous retrouvons après quelques notes du concerto pour clarinette de Mozart.
Gilliane, nous nous intéressons donc au docteur Hébrard.
Oui, il naît à Bourg-en-Bresse le 18 février 1816. Son père est alors percepteur en Dombes. Il fréquente le collège où il côtoie le futur peintre Anthony Viau, qui le devance pour les premières places en classe. À Paris, il suit des études de médecine et il est diplômé en novembre 1836. La suite est plus floue.
Il exerce dans plusieurs communes des environs de Bourgard, en Val-de-Saône, cette partie de l'Ain en face de Villefranche. On le retrouve ensuite à Jujurieux, où il soigne les employés des soieries Bonnet. C'est aujourd'hui le musée départemental. Un musée départemental. Les demoiselles pensionnaires sont frappées par une épidémie de variole. C'est peut-être à cette occasion que naît sa vocation d'écrivain, ou plutôt de chercheur et d'auteur.
Ses employés avaient été vaccinés, mais elles n'avaient pas été immunisées. Le vaccin était défaillant. Il fait part de ses constatations à l'Académie de médecine, et son mémoire lui vaut une médaille de bronze de la Société française de vaccines. C'est le terme de son époque. Ses mises en garde sur la qualité du vaccin ne seront pas prises en compte, car la France et l'Inde vont subir une terrible épidémie de variole pendant la guerre de 1870-1871, comme les chroniques l'évoquent sur leur site internet.
À propos de vaccination, nous pouvons ajouter une information. Dans le bulletin de la Société d'émulation de l'Ain, Élie Hébrard publie la biographie du docteur Pacou, le créateur de l'école d'accouchement, mais aussi responsable départemental de la vaccination. Il lui rend également hommage.
En effet, il a rejoint Bourg et l'hospice de la Charité depuis 1843 et il est totalement intégré au milieu médical de Bourg-en-Bresse. Il poursuit ses travaux scientifiques et il s'intéresse à un petit animal que nous évoquerons dans un instant.
Nous allons d'abord parler d'un autre aspect important de son œuvre, la promotion de l'hygiène auprès des classes laborieuses, toujours des termes employés à son époque.
Le docteur Hébrard est un petit peu compliqué à suivre car tous ses ouvrages n'ont pas été archivés et il les améliore sans cesse. En 1846, à la demande de la Bibliothèque populaire et catholique, il publie le livre des gardes-malades et des mères de famille qui va connaître plusieurs éditions jusqu'à au moins une sixième en 1867 à Bourg et à Paris.
Dans la préface de cette sixième édition, il écrit que la première de 2000 exemplaires a été épuisé en 3 mois. C'est dire sa pertinence. Le livre a été diffusé au sein des congrégations religieuses et même utilisé par un médecin durant la guerre de Crimée du milieu du XIXe siècle.
Il est reconnu à Bourg, mais il obtient aussi la notoriété ailleurs. Nous le retrouvons en 1853 à un concours de la Société des sciences et des belles-lettres de Rouen, sur le thème, je cite, « Traité d'hygiène spécialement destiné aux classes ouvrières ». Il s'agit de donner des conseils d'hygiène pour préserver la santé des ouvriers et réduire la mortalité infantile.
Et en cette même année 1853, la Société académique de Saint-Quentin, dans l'Aisne, publie son ouvrage intitulé « Lettres sur l'hygiène et l'économie domestique ». Pour cela, en s'appuyant sur un fait réel, il simule un échange de courriers entre un frère et une sœur pour prodiguer de multiples conseils dans les domaines de la santé, de l'enfantement, de la mutualité et même des caisses de retraite. En introduction, il a repris la devise « La santé, c'est la force des bras, et la force des bras, c'est le gagne-pain du travailleur ».
Sous son autorité, nous pouvons dire que l'hygiène de vie conduit à la bonne santé, qu'elle-même permet le travail pour nourrir le foyer familial. On peut ainsi vivre sereinement, ou presque, et élever ses enfants. Pour lui, c'est un tout. Promouvoir une nourriture saine, entretenir ses vêtements, aérer son logement et, bien sûr, lutter contre l'alcoolisme. Ce qui n'était pas évident à cette époque. Le vin était censé donner des forces.
Nous avons évoqué Rouen, Saint-Quentin, mais le docteur Élie Hébrard intervient-il dans d'autres villes ?
Oui, il donne des conférences à Cambrai, dans le Nord. En 1856, il obtient une médaille d'or de 200 francs auprès de la Société de médecine de Lyon pour un traité concernant, là encore, l'hygiène des ouvriers. Une autre médaille d'or de 300 francs à Mâcon, en 1864, pour avoir proposé l'amélioration des connaissances agricoles des classes rurales. De là, il va écrire un ouvrage intitulé « L'hygiène des cultivateurs et des jardiniers », un livre recommandé par le ministère de l'Instruction publique.
Ces ouvrages, que l'on appellerait aujourd'hui d'éducation populaire, conduisent le docteur Hébrard à élargir ses horizons, à écrire un essai sur la salubrité publique des communes rurales. Il propose des règles d'hygiène au sein du village organisé entre l'école et l'église. Il insiste sur l'éducation et il prédit, à juste titre, le développement de l'instruction.
Dans ses ouvrages, on retrouve aussi 2 thèmes récurrents qu'il étudie en même temps. La lutte contre le charlatanisme en médecine et pharmacie. Il invite les gens à s'adresser à un médecin et à se méfier des remèdes populaires, des charlatans ou autres publicités de médicaments, car des soins inappropriés peuvent aggraver une blessure et divers maux. Et il s'intéresse aussi à la flore médicinale, au bon usage des plantes et des tisanes.
Pendant toute sa vie, il étudie ce petit animal aquatique qu'est la sangsue. Il va publier un premier ouvrage en 1844 et l'améliorer durant plus de 20 ans. Sous l'Ancien Régime, la saignée était l'un des principaux procédés de la médecine. Désormais, on lui préfère l'application de sangsue. Et le docteur Hébrard dit que la France en consomme plus de 50 millions chaque année.
Il faut en procurer. Et la Dombe, toute proche, offre une zone favorable. Le docteur Hébrard s'intéresse donc à leur multiplication en captivité. Les essais n'ont pas été toujours fructueux. Il faut analyser leur anatomie, comprendre leur développement en milieu naturel pour tenter d'autres essais. Il faut aussi connaître leurs prédateurs pour les préserver. Déterminer la taille à atteindre pour les utiliser au mieux en thérapeutique.
Aujourd'hui, cela peut paraître étrange, mais c'est la médecine du XIXe siècle. Et le docteur Hébrard étudie aussi d'autres espèces de petite taille, comme les fourmis et les limaçons. Avec des articles pour le journal de la Société d'émulation de l'Ain, sa biographie est impressionnante, mais il a d'autres activités.
Il milite pour la création de sociétés de secours mutuels, pour l'épargne, et il participe en 1865 à la création de la Bibliothèque populaire, dont la présidence est assurée par le député Léopold Lehon. 5 ans plus tard, installée dans un local de l'ancienne préfecture près de la mairie, la bibliothèque compte 3000 volumes et 300 lecteurs. C'est une belle réussite, 10 ans avant les lois scolaires de la future Troisième République.
Il est aussi un élu municipal à Bourg.
Une première fois en 1848, mais il démissionne 3 ans plus tard, car il va habiter à Saint-Denis-les-Bourgs. Il est à nouveau élu en 1871, et bien sûr, il s'implique dans l'hygiène publique. La couverture du cône, l'égout de la ville, l'enlèvement des boues. Avec d'autres élus, bien que catholiques convaincus, il milite pour la création d'une école laïque de filles.
Ses œuvres médicales ont bien sûr vieilli face au progrès de la médecine, mais l'un de ses derniers ouvrages, publié en 1866, est passé à la postérité. Misère et charité dans une petite ville de France. C'est une enquête rigoureuse, fort bien documentée, qui totalise 492 pages. Cet ouvrage lui vaut une médaille de l'Académie des sciences de Paris.
Il décède de maladie, une fluxion de poitrine, à son domicile le 17 février 1874. Son seul frère, Eugène, plus jeune de 2 ans, meurt 3 semaines plus tard. Élie Hébrard lègue la presque totalité de ses avoirs à la ville de Bourg, qui, en sa mémoire et selon sa volonté, crée la société Hébrard, une société de secours mutuel, au début de l'année 1875. Et la rue de son dernier domicile, la rue de la Vieille Charité, devient la rue Docteur Hébrard lors du conseil municipal du 9 mai 1887.
Élie Hébrard a beaucoup œuvré pour une vie meilleure pour ses concitoyens, mais il n'a pas appliqué pour lui-même un de ses conseils. Il a écrit en effet, il est reconnu que les personnes mariées se portent mieux et vivent plus longtemps, mais lui, il est officiellement resté célibataire. Il a été et reste un grand bienfaiteur.
Et nous terminons en remerciant Jimmy à la technique, nos collègues Claude et Rémi des Chroniques de Bresse qui nous ont préparé cette émission. Au revoir Martine.
Au revoir Gilliane.
Au revoir à tous.
Depuis que je suis militaire, ce n'est pas rigolo entre nous. Je suis d'une santé précaire et je me fais un mauvais sang-fou. J'ai beau vouloir me remonter, je souffre de tous les côtés. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, j'ai le ventre qui se rentre, j'ai le pylore qui se colore, j'ai le gosier anémié, l'estomac bien trop bas et les côtes bien trop hautes, j'ai les hanches qui se démanchent, l'épigastre qui s'encastre, l'abdomen qui se démène, j'ai le thorax qui se désaxe, la poitrine qui se débine, les épaules qui se frôlent, j'ai les reins bien trop fins, les boyaux bien trop gros, j'ai le sternum qui se dégomme et le sacrum, c'est tout comme j'ai le nombril tout en vrille et le coccyx qui se dévisse. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant. Afin de guérir au plus vite, un matin tout dernièrement, je suis allé à la visite, voir le major du régiment. D'où souffrez-vous qui m'a demandé? C'est bien simple que j'y répliquais. J'ai la rate qui se dilate, j'ai le foie qui est pas droit, et puis j'ai ajouté, voyez-vous, ce n'est pas tout. J'ai les genoux qui sont mous, j'ai le fémur qui est trop dur, j'ai les cuisses qui se raidissent, les guiboles qui flageolent, j'ai les chevilles qui se tortillent, les rotules qui ondulent, les tibias raplapla, les mollets trop épais, les orteils pas pareil, j'ai le cœur en largeur, les poumons tout en long, l'occiput qui chahute, j'ai les coudes qui se dessoudent, j'ai les seins sous le bassin et le bassin qui est pas sain. Ah bon Dieu que c'est embêtant d'être toujours patraque, ah bon Dieu que c'est embêtant, je ne suis pas bien portant.